L'appel retentit. Quand Buck eut gagné 1 600 $ en 5 minutes pour John Thornton, il permit à son maître de régler certaines dettes et de voyager avec ses associés dans l'Est, à la recherche d'une mine perdue légendaire, dont l'histoire était aussi ancienne que l'histoire du pays. Beaucoup de gens l'avaient cherchée, bien peu l'avaient trouvée, mais plus d'un n'en était jamais revenu. Cette mine perdue était imprégnée d'une aura tragique et enveloppée de mystère. Personne n'en connaissait le premier découvreur. La tradition la plus ancienne s'arrêtait avant de remonter jusqu'à lui. Depuis le début, il y avait eu une cabane antique délabrée. Des hommes agonisants avaient juré qu'elle existait et aussi la mine dont elle marquait l'emplacement. Et leurs témoignages s'appuyaient sur des pépites d'une grosseur inconnue dans les terres du Nord. Mais aucun homme vivant n'avait pillé ce trésor. Et les morts étaient bien morts. C'est pourquoi John Thornton, Pete et Hans, avec Buck et une demi-douzaine d'autres chiens, prirent la direction de l'Est, sur une piste inexplorée, pour tenter de réussir là où des hommes et des chiens pourtant aussi doués qu'eux avaient échoué. Ils remontèrent le Yukon en traîneau sur 70 milles, virèrent à gauche par la rivière Stewart, dépassèrent la Mayo et la McQuestion et maintinrent le cap jusqu'à l'endroit où la Stewart elle-même devient un tout petit ruisseau qui se faufile parmi les pics imposants, marquant l'épine dorsale du continent. John Thornton demandait peu de choses à l'homme ou à la nature. Il n'avait pas peur du monde sauvage. Avec une poignée de sel et un fusil, il pouvait se lancer dans un pays désert et y circuler partout où cela lui plaisait et aussi longtemps qu'il en avait envie. Sans jamais se hâter, à la manière indienne, il se procurait son dîner en chassant pendant sa journée de voyage. Et s'il ne réussissait pas à le trouver, comme les Indiens, il poursuivait son chemin, sachant de façon certaine que tôt ou tard, il l'obtiendrait. Ainsi, dans cette grande expédition vers l'Est, la viande fraîche constituait le plat du jour. Le chargement du traîneau consistait surtout en munitions et en outils. Et l'emploi du temps misait sur un avenir inépuisable. Pour Buck, tout était un plaisir infini. Cette chasse, cette pêche, l'errance illimitée dans des endroits inconnus. Pendant des semaines entières, il progressait régulièrement, jour après jour. Et pendant d'autres semaines, il campait çà et là. Les chiens paraissaient. Les hommes creusaient des trous en faisant fondre la boue et le gravier glacé. Ils lavaient d'innombrables bâtés à la chaleur du feu. Tantôt ils avaient faim, tantôt ils faisaient bruyamment la fête, selon l'abondance du gibier et leur chance à la chasse. L'été arriva. Les chiens et les hommes, avec leurs paquets sur le dos, traversèrent en radeau des lacs de montagnes bleues et descendirent ou remontèrent le cours de rivières inconnues sur des bateaux étroits taillés dans la forêt environnante. Les mois s'écoulaient et ils erraient et multipliaient les allées et venues à travers l'immensité inconnue des cartes où ne vivait aucun homme et où pourtant des hommes avaient vécu, si l'histoire de la hutte perdue était vraie. Ils traversèrent des lignes de partage des eaux dans des blizzards d'été. Ils frissonnèrent sous le soleil de minuit, sur des monts dénudés, entre la ligne des arbres et les neiges éternelles. Ils plongèrent dans des vallées estivales, parmi des nuées de mouches et de moustiques. Et à l'ombre des glaciers, ils cueillirent des fraises et des fleurs aussi mûres et aussi belles que celles qui faisaient la fierté des terres du Sud. À l'automne, ils pénétrèrent dans un étrange pays de lacs, triste et silencieux, où il y avait eu des oiseaux sauvages, mais où ne subsistait maintenant plus de vie ou de signes de vie. Seulement le souffle de vent très froid, la glace qui se formait dans les endroits abrités et les rides mélancoliques des vagues sur des plages solitaires. Et durant un autre hiver, ils errèrent sur les traces oubliées des hommes qui les avaient précédés. Un jour, ils tombèrent sur un sentier frayé à travers la forêt, un ancien sentier, et la hutte perdue sembla soudain très proche. Mais ce sentier ne commençait et ne finissait nulle part, et il resta un mystère, comme demeurèrent des mystères l'homme qui l'avait tracé et la raison pour laquelle il l'avait tracé. Une autre fois, ils trouvèrent par hasard les décombres d'une cabane de chasse, ruinée par le temps. Et parmi des lambeaux de couverture pourris, Thornton découvrit un fusil à pierre à canon long. Il le reconnut pour une arme de la compagnie de la baie d'Hudson qui remontait aux premières années dans le Nord-Ouest, quand un tel fusil valait son pesant de peau de castor empilé. Et c'était tout. Aucun indice sur l'homme qui jadis avait élevé la hutte et laissé le fusil au milieu des couvertures. Ce fut de nouveau le retour du printemps, et à la fin de leur errance, ils découvrirent non pas la hutte perdue, mais un filon en surface, dans une large vallée, où l'or luisait comme du beurre blond au fond de la bâtée. Ils ne cherchèrent pas plus loin. Chaque jour de travail leur rapportait des milliers de dollars en poudre bien pure et en pépites, et ils travaillaient tous les jours. L'or fut entassé dans des sacs en poudre ignale, 50 livres par sac, et empilé comme autant de bois de chauffe à l'extérieur de la cabane en branches d'épicéa. Ils trimaient comme des titans, et les jours se succédaient à toute allure, comme en rêve, tandis qu'ils amoncelaient leur trésor. Les chiens n'avaient rien à faire qu'à traîner de temps en temps le gibier abattu par Thornton, et Buck passait de longues heures à rêvasser près du feu. La vision de l'homme poilu aux jambes courtes lui revenait plus fréquemment, maintenant qu'il y avait peu de travail. Et souvent, tout en clignant des yeux près du feu, Buck errait avec lui dans cet autre monde dont il gardait le souvenir. Le trait marquant de ce monde différent semblait la peur. Quand il regardait l'homme velu dormir près du feu, la tête entre les genoux et les mains serrées par-dessus, Buck voyait qu'il dormait d'un sommeil agité. Il sursautait et se réveillait souvent. Alors il scrutait craintivement l'obscurité et jetait davantage de bois sur le feu. Quand il marchait sur le bord de mer, où l'homme chevelu ramassait des coquillages pour les manger aussitôt, ses yeux erraient partout à la recherche d'un danger caché, et ses jambes étaient prêtes à courir comme le vent dès qu'il apparaîtrait. Il se glissait sans bruit à travers la forêt, où Buck restait sur les talons de l'homme velu. Et, tous deux, ils étaient vigilants et sur le qui-vive. Leurs oreilles s'agitaient et remuaient, leurs narines frémissaient. Car l'homme avait l'ouïe et l'odorat aussi développés que Buck. Il pouvait grimper d'un bond dans les arbres et s'y déplacer aussi vite que sur le sol, en se balançant de branche en branche à l'aide de ses bras. Des branches parfois éloignées l'une de l'autre d'une douzaine de pieds. Il en laissait une pour attraper l'autre, sans jamais tomber ni manquer sa prise. En fait, il paraissait chez lui aussi bien parmi les arbres qu'à terre. Et Buck gardait le souvenir de nuits passées à veiller sous les branches dans lesquelles l'homme chevelu se perchait et s'agrippait ferme, tout en dormant. Et puis, très proche des visions de cet homme chevelu, il y avait l'appel qui retentissait encore dans les profondeurs de la forêt. Il le remplissait d'une grande agitation et d'étranges désirs. Il l'amenait à ressentir une joie vague et douce, et il avait conscience d'aspirations et d'élan sauvage vers il ne savait quoi. Parfois, il poursuivait l'appel au cœur de la forêt et le recherchait comme s'il s'agissait d'une chose bien réelle. Il aboyait doucement ou sur un ton de défi, selon ce que lui dictait son humeur. Il fourrait son museau dans la mousse fraîche des bois ou dans le sol noir où poussaient de longues herbes et les grasses senteurs de la terre le faisaient grogner de joie. Ou bien il s'accroupissait pendant des heures comme pour se dissimuler, derrière les troncs d'arbres abattus, couverts de moisissures, les yeux et les oreilles largement ouverts à tout ce qui bougeait et bruissait près de lui. Peut-être, en restant ainsi étendu, espérait-il surprendre cet appel dont il ne pouvait saisir le sens. Mais il ignorait la raison pour laquelle il accomplissait ces diverses actions. Il était contraint de les accomplir sans raisonner du tout à leur sujet. Des impulsions irrésistibles s'emparaient de lui. Il était couché dans le camp, à sommeiller paresseusement dans la chaleur de la journée, lorsque soudain sa tête se relevait, ses oreilles se dressaient dans une écoute attentive. Alors, il bondissait sur ses pattes et s'éloignait à toute allure. Et cela durait pendant des heures, dans les centres de la forêt et à travers les clairières où les têtes de nègres se groupaient en bouquets serrés. Il aimait à descendre le cours des rivières asséchées, à épier sans bruit la vie des oiseaux dans les bois. Pendant une journée entière, il restait étendu dans les sous-bois, où il pouvait observer les perdrix en train de cacaber et de se pavaner. Mais il aimait tout particulièrement courir dans le pâle crépuscule des nuits d'été, en écoutant les murmures assourdis de la forêt qui s'endort, en lisant les signes et les bruits, comme un homme peut lire un livre, en cherchant cette chose mystérieuse dont l'appel résonnait, qui l'appelait, éveillé ou endormi, à tout moment, et l'invitait à venir la rejoindre. Une nuit, il s'éveilla en sursaut et bondit, l'œil impatient. Ses narines frémissantes humaient l'air. sa crinière se hérissait en une succession de vagues. De la forêt provenait l'appel, ou du moins l'une de ses notes, car l'appel en comportait plusieurs, plus claires et plus nettes qu'il ne l'avait jamais été. Un long hurlement, qui ressemblait au cri d'un husky, mais était pourtant tout différent, et il le reconnaissait comme un son déjà entendu auparavant et depuis longtemps familier. Il bondit à travers le camp endormi et fila d'un pas rapide et silencieux à travers les bois. Comme il approchait du cri, il ralentit, devint prudent dans chacun de ses mouvements. Alors, parvenu à une clairière au milieu des arbres, il vit soudain, dressé sur son arrière-train, museau pointant vers le ciel, un loup de la forêt, long et maigre. Il n'avait fait aucun bruit, pourtant l'autre cessa de hurler et se mit à sentir sa présence. Buck le rejoignit dans la clairière, à demi accroupi, le corps bien ramassé sur lui-même, la queue raide et droite, ses pattes avancées avec une circonspection inhabituelle. Chacun de ses mouvements annonçait un mélange d'intimidation et d'avance amicale. C'était la trêve menaçante qui marque la rencontre des bêtes féroces en quête d'une proie. Mais le loup s'enfuit à sa vue. Alors, il le suivit, avec des bonds sauvages et le désir frénétique de le dépasser. Il le poussa dans un bras en cul-de-sac situé dans le lit d'un ruisseau où un amas de bois empêchait le passage. Le loup se retourna en pivotant sur ses pattes arrière, à la manière de Joe et de tous les huskies acculés. Il grondait et se hérissait en faisant claquer ses dents dans une succession continue et rapide de bruits secs. Buck n'attaqua pas, mais lui tourna autour et l'enveloppa d'avances amicales. Le loup était soupçonneux et effrayé, car le chien en valait trois comme lui pour le poids et sa tête atteignit à peine l'épaule de Buck. Guettant le moment favorable, il repartit comme une flèche et la poursuite reprit. Maintes fois, il se trouva acculé et le scénario se répéta. Il n'était pas en forme, sinon Buck aurait eu plus de mal à le dépasser. Il courait jusqu'au moment où la tête de Buck se trouvait au niveau de son flanc. Alors, aux abois, il tournait sur lui-même, uniquement pour filer de nouveau à la première occasion. Mais à la fin, l'opiniâtreté de Buck trouva sa récompense. Car le loup, découvrant qu'il n'avait pas l'intention de lui nuire, le renifla finalement nez à nez. Alors ils devinrent amis et se mirent à jouer, de cette manière nerveuse et un peu timide, avec laquelle les bêtes féroces démentent leur férocité. Après un moment de ce jeu, le loup démarra en grande foulée souple, d'une façon qui montrait clairement qu'il allait quelque part. Il signifia ouvertement à Buck qu'il devait venir aussi. Ils coururent côte à côte dans le sombre crépuscule, en remontant tout droit le lit de la rivière jusqu'à la gorge dont elle sortait, et franchirent la froide ligne de partage des eaux où elle prenait sa source. Sur la pente opposée de la ligne, ils descendirent sur un plateau remarquable par ses grandes étendues boisées et ses nombreux ruisseaux. À travers ces vastes solitudes, ils coururent sans interruption, des heures durant, tandis que le soleil devenait plus haut et la journée plus chaude. Buck était fou de joie. Il savait qu'enfin il répondait à l'appel, en courant à côté d'un frère des bois, vers l'endroit d'où, à coup sûr, il provenait. De vieux souvenirs lui revenaient rapidement, et il s'éveillait à leur contact comme autrefois il s'éveillait aux réalités dont il constituait les ombres. Il avait fait cela auparavant, quelque part, dans cet autre monde qu'il gardait vaguement en mémoire. Et il le faisait de nouveau, en courant librement dans les grands espaces, avec les terres jamais foulées sous ses pattes et le vaste ciel au-dessus de sa tête. Ils s'arrêtèrent pour boire près d'un petit torrent, et en s'arrêtant, Buck se rappela John Thornton. Il s'assit, le loup s'élança vers l'endroit d'où certainement provenait l'appel, puis il revint vers lui, le renifla avec la truffe et sembla vouloir l'encourager. Mais Buck fit volte-face et commença lentement à rebrousser chemin. Pendant près d'une heure, le frère sauvage courut à son côté en gémissant doucement. Puis il s'assit, pointa le museau vers le ciel et hurla. Ce fut un hurlement lugubre, et tandis que Buck poursuivait son chemin sans s'interrompre, il l'entendit faiblir et décroître jusqu'au moment où il se perdit dans le lointain. John Thornton était en train de dîner quand Buck arriva à toute allure dans le camp et se jeta sur lui avec une affection frénétique. Il le renversa, lui grimpa dessus, lui lécha le visage, lui mordit la main. Jouant le parfait idiot, comme disait John Thornton, tout en secouant Buck d'avant en arrière et en l'injuriant tendrement. Pendant 2 jours et 2 nuits, Buck n'abandonna jamais le camp, ne quitta jamais des yeux Thornton. Il le suivait à son travail, l'observait pendant qu'il mangeait, le regardait entrer le soir dans ses couvertures et en sortir au matin. Mais au bout de 2 jours, l'appel dans la forêt résonna de manière plus impérieuse que jamais. L'agitation ressaisit Buck. Il était hanté par les souvenirs de son frère sauvage, de la terre riante au-delà de la ligne de partage des eaux, de la course côte à côte à travers les vastes étendues forestières. Une fois encore, il se mit à errer dans les bois, mais le frère sauvage ne revint plus. Et il avait beau écouter durant les longues veilles, le hurlement lugubre ne s'éleva plus. Il commença à dormir dehors la nuit, s'éloigna du camp durant des jours entiers. Une fois, il traversa la ligne à la source du ruisseau et descendit dans le pays des bois et des eaux courantes. Il y erra 1 semaine, cherchant vainement une trace fraîche du frère sauvage. Il tuait son gibier en cours de route et progressait avec ses longues foulées souples qui semblaient ne jamais le fatiguer. Il pêcha le saumon dans une large rivière qui se jetait quelque part dans l'océan. Et près de cette rivière, il tua un grand ours noir, aveuglé par les moustiques, pendant qu'il pêchait aussi, et qui poussa des cris de rage terribles et désespérés à travers la forêt. Même dans ces conditions, ce fut un dur combat. Et il fit surgir tout ce qui demeurait à l'état latent dans la férocité de Buck. 2 jours plus tard, quand il retourna vers sa proie et trouva 12 de gloutons qui se querellaient sur la dépouille, il les dispersa comme quantité négligeable. Et ceux qui purent s'enfuir en laissèrent 2 derrière eux qui ne se querelleraient plus. Le désir du sang devint en lui plus fort que jamais. C'était un tueur, une bête de proie, vivant aux dépens des créatures vivantes, sans aide, solitaire, grâce à sa propre force et à sa propre habileté. Il survivait triomphalement dans un environnement hostile où seuls survivaient les plus forts. Pour toutes ces raisons, il devint doué d'une grande confiance en lui-même, qui se communiquait de manière contagieuse à son existence physique. Elle s'affichait dans tous ses mouvements, se manifestait dans le jeu de chaque muscle, s'exprimait aussi clairement qu'un discours dans son comportement, et ajoutait encore à la splendeur de son superbe manteau de fourrure. Sans la bande marron qu'il avait sur le museau et au-dessus des yeux, et la tache de poils blancs qui descendait juste au milieu de sa poitrine, on aurait bien pu le prendre par erreur pour un loup gigantesque, plus grand que les plus grands de cette race. De son Saint-Bernard de père, il avait hérité la taille et le poids. Mais c'était sa mère, un chien de berger, qui avait donné forme à cette taille et à ce poids. Son museau était le long museau du loup, mais il était plus grand que le museau de n'importe quel loup. Et sa tête, un peu plus large, était aussi une tête de loup, mais en plus massive. Sa ruse était celle du loup, une ruse féroce, mais son intelligence celle du chien de berger et du Saint-Bernard. Et tout cela, ajouté à une expérience acquise à la plus féroce des écoles, en faisait une créature aussi redoutable que toutes celles qui parcouraient les étendues sauvages. Un animal carnivore, ne vivant strictement que de viande, voilà ce qu'il était dans la fleur de son âge, à l'apogée de sa vie. Et il débordait de vigueur et de virilité. Quand Thornton lui caressait le dos de sa main, un bruit sec et un crépitement suivaient cette main, et chaque poil déchargeait à son contact le magnétisme qu'il contenait. Chaque partie de son être, cerveau et corps, fibres et tissus nerveux, était accordée de la manière la plus exquise. Et entre toutes ces parties, il y avait un équilibre ou un ajustement parfait. Au spectacle, au son, aux événements qui exigeaient l'action, il répondait avec la rapidité de l'éclair. Là où un husky pouvait bondir rapidement pour l'esquive ou l'attaque, il était capable de bondir 2 fois plus vite. Il voyait le mouvement ou entendait le bruit et répondait en moins de temps qu'il n'en fallait à un autre chien pour saisir simplement ce qu'il voyait ou entendait. Il percevait, décidait et répondait dans le même instant. En fait, les trois éléments, perception, décision et réponse, se suivaient. Mais les intervalles de temps qui les séparaient étaient si infimes qu'on les croyait simultanés. Ses muscles débordaient de vitalité et entraient brusquement en action comme des ressorts d'acier. La vie coulait à travers lui en flots splendides, joyeuses et exubérantes, au point qu'elle semblait devoir exploser dans un mouvement de pure extase et se répandre généreusement sur l'univers.
« On n'a jamais vu un chien pareil », déclara un jour John Thornton, tandis que les associés observaient Buck qui sortait du camp.
« Quand on l'a fait, on a cassé le moule », dit Pete.
« Crénom, je le pense aussi », affirma Hans.
S'il le voyait quitter le camp, il n'assistait pas à la métamorphose instantanée et terrifiante qui se produisait dès qu'il se trouvait à l'intérieur du mystère de la forêt. Il ne marchait plus. Aussitôt, il devenait une créature sauvage qui avançait doucement à pas furtifs, des pas de félin, une ombre qui passait, apparaissant et disparaissant au milieu des ombres. Il savait comment tirer parti de chaque abri. Il savait ramper sur le ventre comme un serpent, et comme un serpent, bondir et frapper. Il pouvait tirer un lagopède de son nid, tuer un lapin qui dormait, et briser en plein vol les petits tamias qui s'enfuyaient, une seconde trop tard dans les arbres. Les poissons dans les étangs sans glace n'étaient pas trop rapides pour lui, ni les castors trop méfiants quand ils réparaient leurs barrages. Il tuait pour manger, jamais de manière gratuite, mais il préférait manger ce qu'il tuait lui-même. Le plaisir de jouer, autant que la menace, gouvernait ses actes. Il s'amusait à se jeter sur les écureuils, et quand il les tenait presque, à les relâcher. Et il regagnait le sommet des arbres, mort de peur, en poussant de petits cris. Tandis que l'automne approchait, l'orignal apparut en plus grande quantité. Il descendait lentement pour aller affronter l'hiver dans les vallées plus basses, au climat moins rigoureux. Buck avait déjà abattu un jeune animal égaré, qui n'avait pas encore atteint l'âge adulte. Mais il désirait vivement une proie plus grande et plus redoutable. Il la rencontra un jour sur la ligne de partage des eaux, à la source de la rivière. Une bande de 20 orignaux l'avait franchie en venant du pays des ruisseaux et des bois. Son chef était un grand mâle. Il était d'un caractère violent et, dominant le sol de 6 pieds, offrait même à Buck un adversaire aussi dangereux qu'il pouvait le désirer. Il lançait dans tous les sens ses grands bois palmés qui se ramifiaient en 14 andouillés et s'étendaient sur 7 pieds jusqu'à leur extrémité. Ses petits yeux luisaient d'un éclat méchant et cruel, tandis qu'il rugissait de fureur à la vue de Buck. Sur le côté du mâle, juste en avant de son flanc, on voyait saillir une pointe de flèche avec des plumes qui expliquaient sa férocité. Guidé par cet instinct qui provenait des anciens jours de chasse dans le monde originel, Buck réussit à séparer l'animal blessé du troupeau. Ce ne fut pas une tâche aisée. Il aboyait et dansait devant lui, en se tenant juste hors d'atteinte des grands bois et des terribles sabots plats qui auraient pu lui ôter la vie en le frappant ne fût-ce qu'une fois. Incapable de tourner le dos au danger des crocs et de poursuivre son chemin, le mâle se laissait aller à de violents accès de rage. Dans de tels moments, il chargeait Buck, qui avait l'astuce de l'attirer dans un mouvement de repli en feignant d'être incapable de lui échapper. Mais quand il était ainsi séparé de ses camarades, 2 ou 3 des mâles plus jeunes chargeaient Buck et permettaient aux blessés de rejoindre la horde. Il y a une patience dans la vie sauvage, obstinée, inlassable, persévérante comme la vie même, qui maintient immobile, pendant d'interminables heures, l'araignée dans sa toile, le serpent dans ses anneaux, la panthère en embuscade. Cette patience est tout particulièrement celle de la vie quand elle chasse la nourriture qui la fait vivre. Et elle était celle de Buck quand il s'accrochait au flanc de la horde, retardait sa progression, irritait les jeunes mâles, inquiétait les femelles avec leurs enfants encore jeunes et rendait la bête blessée folle de rage, impuissante. Cela continua pendant une demi-journée. Buck se multipliait, attaquait de tous côtés,
envelopper le troupeau dans un tourbillon de menaces, couper le chemin de sa victime dès qu'elle aurait pu rejoindre ses congénères et épuiser la patience des bêtes dont il faisait sa proie, car elle est moindre que celle des prédateurs.
À mesure que le jour s'avançait et que le soleil se couchait au nord-ouest, l'obscurité était revenue et les nuits d'automne duraient 6 heures, les jeunes mâles étaient de moins en moins disposés à revenir sur leurs pas pour aider leur chef harcelé. Avec l'hiver qui s'annonçait, ils étaient pressés de rejoindre des altitudes moins élevées. Et ils avaient l'impression qu'ils ne pourraient jamais se débarrasser de cette bête infatigable qui les retenait en arrière. En outre, ce n'était pas la vie de la horde, ni celle des jeunes mâles qui se trouvaient menacés. Non. On exigeait la vie d'un seul de ses membres, ce qui était d'un intérêt moindre que leur vie à eux. Et à la fin, ils furent contents de payer ce tribut. Au crépuscule, le vieux mâle se tenait tête basse, observant ses compagnons, les femelles qu'il avait connues, les jeunes dont il était le père, les mâles qu'il avait domptés, tandis qu'il disparaissait d'un pas rapide dans la lumière déclinante. Il ne pouvait suivre car devant son museau bondissaient les crocs terrifiants et sans pitié qui refusaient de le laisser partir. Il dépassait la demi-tonne de 300 livres. Il avait vécu une vie longue et intense, pleine de batailles et de luttes. Et il l'a terminée en faisant face à la mort, sous les dents d'un animal dont la tête dépassait à peine ses grands genoux noueux. À partir de cet instant, nuit et jour, Buck n'abandonna jamais sa proie, ne lui laissa jamais un moment de repos, ne l'autorisa jamais à brouter les feuilles des arbres ou les pousses de jeunes boulots et de saules. Il ne donna pas non plus au mâle blessé la possibilité d'étancher sa soif brûlante dans les maigres filets d'eau courante qu'il traversait. Souvent, en désespoir de cause, l'orignal se précipitait dans de longues périodes de fuite. En pareil cas, Buck n'essayait pas de le retenir, mais courait rapidement sur ses talons, content du tour que prenait le jeu. Il se couchait quand l'autre restait immobile et l'attaquait sauvagement quand il s'efforçait de manger ou de boire. La grande tête s'abaissait de plus en plus sous son arbre de cornes et son trot traînant devenait de plus en plus faible. Il restait immobile pendant de longs intervalles, son museau penché vers le sol, ses oreilles abattues retombaient mollement. Et Buck trouvait plus de temps pour aller se chercher de l'eau et pour se reposer. Dans de tels moments, tandis qu'il haletait, sa langue rouge pendante, ses yeux fixés sur le grand mâle, Buck percevait clairement qu'un changement s'accomplissait. Il sentait un frisson nouveau agiter le pays. Tandis que les orignaux y arrivaient, d'autres formes de vie y arrivaient aussi. La forêt, l'eau courante, l'air semblait palpiter de leur présence. Ce qui lui en apportait la nouvelle, ce n'était pas la vue, l'ouïe ou l'odorat, mais un autre sens plus subtil. Il n'entendait rien, ne voyait rien. Pourtant, il savait que la contrée était d'une certaine manière différente, qu'à travers elle de drôles de choses se préparaient et rôdaient. Et il décida d'enquêter dès qu'il aurait terminé l'affaire en cours. Enfin, au bout du 4e jour, il abattit le grand orignal. Durant 1 jour et 1 nuit, il demeura près de sa proie, à manger et à dormir, à aller et venir autour d'elle, puis reposé, rafraîchi, sûr de sa force. Il reprit le chemin du camp pour retrouver John Thornton. Il avançait en longue foulée rapide et continuait des heures durant, sans jamais se laisser dérouter par le fouillis des chemins, fonçant droit vers chez lui, à travers un pays inconnu, avec un sens si sûr de l'orientation qu'il aurait couvert de honte l'homme et son aiguille aimantée. En poursuivant sa route, il devint de plus en plus conscient de l'agitation nouvelle qui régnait dans le pays. Il y avait partout de la vie, différente de la vie qu'il y avait eue là durant tout l'été. Il ne percevait plus ce changement d'une manière subtile et mystérieuse. Les oiseaux en parlaient. Les écureuils en bavardaient, même la brise le murmurait. Plusieurs fois il s'arrêta et aspira l'air frais du matin en reniflant puissamment. Il lisait un message qui le faisait bondir à plus vive allure. Il était accablé par le pressentiment qu'un désastre était en train de se produire, s'il ne s'était déjà produit. Et tandis qu'il traversait la dernière ligne de partage des eaux et redescendait dans la vallée en direction du camp,
il avança avec plus de précaution.
3 milles plus loin, il tomba sur une piste fraîche qui fit onduler et se dresser le pelage de son cou. Elle menait droit au camp et à John Thornton. Buck se hâta furtivement. Chacun de ses nerfs était tendu et crispé. Sur le qui-vive, il observait les innombrables détails qui racontaient une histoire. Tout sauf la fin. Son nez lui décrivait plus ou moins les êtres vivants sur les traces desquels il marchait. Il remarqua le silence lourd de la forêt. Les oiseaux s'étaient envolés, les écureuils se cachaient. Il en vit un seul, un gris aux poils brillants, plaqué contre une branche morte grise, si bien qu'il semblait en faire partie, excroissance ligneuse sur le bois lui-même.
Pendant que Buck avançait avec la discrétion d'une ombre furtive, son flair l'attira soudain sur le côté comme si une force puissante l'avait empoigné et saisi. Il suivit la nouvelle odeur dans un fourré et trouva Nick.
Il était étendu sur le flanc, mort à l'endroit où il s'était lui-même traîné. Une flèche, avec sa pointe et ses plumes, dépassait de chaque côté de son cadavre. 100 yards plus loin, Buck tomba sur un des chiens de traîneau que Thornton avait acheté à Dawson. Il se débattait contre la mort, juste sur la piste, et Buck le contourna sans s'arrêter. Du camp arrivait le bruit étouffé de nombreuses voix qui s'élevaient et retombaient en une mélopée chantante. Il avança en rampant à plat ventre jusqu'au bord de la clairière et trouva Hans, étendu face contre terre, percé de flèches comme un porc-épic. Au même moment, Buck scruta l'endroit où il y avait eu la cabane en branches d'épicéa, et ce qu'il vit fit se hérisser son poil sur l'encolure et sur les épaules. Une bourrasque de rage irrésistible l'emporta. Il ne savait pas qu'il grondait, mais il grondait à voix haute, avec une férocité terrifiante. Pour la dernière fois de sa vie, il permit à la passion de l'emporter sur la ruse et la raison, et ce fut à cause de son grand amour pour John Thornton qu'il perdit la tête. Les Yi-Yats étaient en train de danser autour des décombres de la cabane en branches d'épicéa lorsqu'ils entendirent un rugissement effrayant et virent se ruer sur eux un animal tel qu'ils n'en avaient jamais vu auparavant. C'était Buck, véritable ouragan de fureur, qui se précipitait sur eux en hurlant avec la frénésie de détruire. Il bondit sur l'homme le plus proche. C'était le chef des Indiens, et lui ouvrit toute grande la gorge. La jugulaire déchirée fit jaillir une fontaine de sang. Il ne s'arrêta pas pour harceler sa victime, mais la déchira au passage et, dès le bond suivant, ouvrit la gorge d'un deuxième homme. Pas moyen de lui résister. Il plongeait en plein milieu d'eux, déchirait, lacérait, détruisait, dans un mouvement continu et terrifiant qui défiait les flèches qu'on lui lançait. En fait, ces mouvements avaient une rapidité tellement inconcevable, et les Indiens étaient tellement enchevêtrés qu'ils s'atteignaient les uns les autres avec leurs flèches. Un jeune chasseur, qui voulait lancer un harpon à Buck à mi-hauteur, en transperça la poitrine d'un autre chasseur avec une telle force que la pointe traversa la peau de son dos et ressortit de l'autre côté.
Alors la panique saisit les Yi-Yats. Ils s'enfuirent dans les bois, épouvantés, et proclamèrent en fuyant l'arrivée de l'esprit du mal. Et réellement, Buck était le diable incarné. Il se déchaînait sur leurs talons et les abattait comme des daims, tandis qu'il courait à travers les arbres. Ce fut une journée désastreuse pour les Yi-Yats. Ils se dispersèrent au loin dans toute la contrée, et il fallut une semaine pour permettre aux derniers survivants de se rassembler dans une vallée plus basse et de faire le bilan de leurs pertes. Quant à Buck, fatigué de les poursuivre, il retourna au camp, qui offrait un spectacle de désolation. Il trouva Pete là où on l'avait tué, dans ses couvertures, surpris au moment du réveil. Les traces de la lutte désespérée de Thornton étaient encore fraîches sur le sol. Buck en sentit chaque détail, jusqu'au bord d'une mare profonde. Sur ce bord, la tête et les pattes de devant dans l'eau, reposait Skeet, fidèle, jusqu'au dernier instant. La mare, boueuse et décolorée depuis les vannes, cachait fort bien ce qu'elle contenait. Et ce contenu, c'était John Thornton, car Buck suivit ses traces jusque dans l'eau, et aucune n'en ressortait. Toute la journée,
Buck remâcha son chagrin près de la mare où erra sans but dans le camp, incapable de se calmer. La mort, qui fait cesser le mouvement et arrache la vie aux êtres vivants, il la connaissait, et il savait que John Thornton était mort. Cela lui laissait un grand vide, quelque chose qui tenait de la faim, mais un vide qui n'arrêtait pas de faire souffrir et que ne pouvait combler la nourriture. Parfois, quand il cessait de contempler les cadavres des Hiyats, il en oubliait cette douleur. Et dans de tels moments, il avait conscience d'une grande fierté en lui, une fierté plus grande que toutes celles qu'il avait déjà connues. Il avait tué l'homme, le plus noble de tous les gibiers, et il l'avait tué en dépit de la loi du gourdin et des crocs. Il reniflait les corps avec curiosité. Ils étaient morts si facilement. Un husky était plus difficile à tuer. Il ne faisait pas du tout le poids, n'eût été leur arsenal de flèches, de lances et de gourdins. Désormais, il n'aurait plus peur d'eux, sauf quand ils auraient ses armes en main. Survint la nuit, et la pleine lune s'éleva dans le ciel au-dessus des arbres. Elle illumina la contrée, qui baigna bientôt dans une lueur fantomatique. Avec l'arrivée de la nuit, Buck, qui ruminait toujours son chagrin et se lamentait près de l'étang, devint conscient qu'une vie nouvelle produisait dans la forêt une agitation différente de celle qu'avaient suscité les Hiyats. Il se leva pour écouter et sentir. Des lointains s'élevaient un jappement faible mais perçant, suivi par un cœur de jappement perçant qui lui ressemblait. Alors que le temps passait, les cris se rapprochèrent, devinrent plus forts. Buck les reconnut une nouvelle fois. Il les avait entendus dans cet autre monde qui persistait en sa mémoire. Il marcha jusqu'au centre de la clairière et écouta. C'était l'appel. L'appel aux notes nombreuses qui résonnaient, plus attirant, plus irrésistible qu'il l'avait jamais été auparavant. Et comme jamais auparavant, il était prêt à lui obéir. John Thornton était mort. Le dernier lien était brisé. L'homme et les prétentions de l'homme ne lui créaient plus d'obligation. En chassant, comme les Hiyats, le gibier qui assurait leur subsistance sur les flancs du troupeau d'orignaux en migration, la meute des loups avait finalement franchi le col, quitté le pays des ruisseaux et des bois, et envahi la vallée de Buck. Dans la clairière inondée par la lumière de la lune, ils se déversèrent tel un flot d'argent. Et au centre de cette clairière se dressait Buck, immobile comme une statue, qui attendait leur arrivée. Ils furent intimidés par l'impression de puissance tranquille qu'il donnait. Il y eut un temps d'arrêt, jusqu'à ce que le plus téméraire bondît droit sur lui. Buck frappa comme l'éclair, lui brisant l'encolure. Alors il demeura sans bouger, comme auparavant, tandis que le loup qu'il avait frappé agonisait derrière lui. Trois autres se succédèrent pour la même tentative. L'un après l'autre, ils durent se retirer. Leurs gorges ou leurs épaules lacérées ruisselaient de sang. Ce fut suffisant pour lancer toute la meute en avant, pêle-mêle, dans une masse serrée et confuse, que gênait son impatience à abattre sa proie. La rapidité et l'agilité merveilleuse de Buck lui furent très utiles. Pivotant sur ses pattes arrière, claquant des mâchoires, tailladant, il était partout à la fois. Il présentait un front apparemment impossible à percer, tant il était prompt à tourbillonner et se protéger de tous les côtés. Mais pour les empêcher de le surprendre par derrière, il fut contraint de reculer au-delà de la mare, dans le lit du ruisseau, jusqu'à un endroit où il se trouva adossé à un haut talus de gravier. Il se déplaça vers un angle droit que les hommes avaient aménagé pendant l'exploitation de la mine. Et de ce renfoncement, il les tint à distance. Protégé sur trois côtés, il devait seulement faire face. Et il le fit si bien qu'au bout d'une demi-heure, les loups battirent en retraite, tout déconfits. Leur langue pendait mollement, leurs crocs blancs luisaient d'un éclat cruel sous la clarté lunaire. Certains demeuraient allongés, têtes dressées, oreilles tendues en avant. D'autres restaient debout à l'observer. D'autres encore lapaient l'eau de la mare. Un grand loup mince et gris s'avança prudemment, d'une manière amicale, et Buck reconnut en lui le frère sauvage, avec lequel il avait couru une nuit et un jour entier. Il gémit doucement et, comme Buck gémissait aussi, leurs museaux se touchèrent. Alors, un vieux loup décharné et marqué par les cicatrices de ses batailles s'avança. Buck tordit les babines comme pour commencer à gronder. Mais ils se reniflèrent la truffe. Sur quoi le vieux loup s'assit, pointa le museau vers la lune et lança le long hurlement de sa race. Les autres s'assirent et hurlèrent aussi. Maintenant, l'appel parvenait à Buck avec des accents qui ne pouvaient tromper. Et à son tour, il s'assit et hurla. Après quoi, il quitta le renfoncement et la meute s'amassa autour de lui, en le reniflant d'une manière à la fois féroce et amicale. Les chefs entonnèrent le jappement de la meute et se dispersèrent en bondissant dans les bois. Les loups s'élancèrent derrière eux, jappant en chœur. Et Buck courut avec eux, côte à côte avec son frère sauvage, et lui aussi jappait tout en courant. C'est peut-être bien là que se termine l'histoire de Buck. Il ne s'était pas écoulé beaucoup d'années lorsque les Hiats remarquèrent un changement dans la race des loups de la forêt. Car on en voyait qu'il y avait des taches marron sur la tête et sur la gueule, et un filet blanc centré au bas de la poitrine. Mais, plus remarquable encore, les Hiats parlent d'un chien fantôme qui court à la tête de la meute. Ils ont peur de lui, car sa ruse dépasse la leur. Il vient voler dans leur camp pendant les terribles hivers, dévalise leurs pièges, massacre leurs chiens et défie leurs chasseurs les plus courageux. Et même l'histoire tourne encore plus mal. Il y a des chasseurs qui ne reviennent jamais au camp. Et certains ont été découverts par des hommes de leur tribu, la gorge ouverte, cruellement déchirée, avec sur la neige autour d'eux des empreintes plus grandes que celles d'aucun loup connu. Chaque automne, quand les Hiats suivent le mouvement des orignaux, il existe une vallée où ils ne pénètrent jamais. Et il y a des femmes qui deviennent tristes quand on raconte autour du feu comment l'esprit du mal est venu choisir cet endroit pour y résider. Au cours des étés, pourtant, un visiteur vient dans cette vallée, à l'insu des Hiats. C'est un grand loup au pelage glorieux, qui ressemble à tous les autres loups, tout en étant très différent. Il arrive seul du riant pays des bois et descend dans une clairière au milieu des arbres. À cet endroit, un ruisseau jaune sort de sa campeau d'orignal pourri et se perd dans le sol. De longues herbes y poussent, une moisissure végétale l'envahit et cache sa teinte dorée au soleil. C'est là qu'il rêve quelque temps. Puis il pousse un long hurlement lugubre avant de repartir. Mais il n'est pas toujours seul. Quand arrivent les longues nuits d'hiver, et que les loups suivent leur proie dans les basses vallées. On peut le voir courir en tête de la meute, sous le pâle clair de lune ou à la lueur vacillante de l'aurore boréale. Il fait des bonds gigantesques, dominant ses compagnons, et sa vaste gorge gronde, tandis qu'il entonne la chanson d'un monde plus jeune, qui est le chant de la meute.